Confession de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 25 août 1993, 7e conférence.
Je vais essayer de répondre aux diverses questions posées. D'abord, toute une série de qu'est-ce que c'est que la concupiscence? Ça ne peut se comprendre que par mode d'expérience. Alors, si parmi vous, il y en a qui sont absolument immaculés, tant mieux. Je loue le Seigneur. Alors, il faut bien voir que le mot concupiscence, je le prends au point de vue philosophique d'abord. On a deux appétits sensibles qu'on appelle les passions. On appelle le concupiscible et l'irascible. Je crois qu'on peut encore employer ces mots aujourd'hui. Le concupiscible, c'est la passion qui regarde le bien sensible. L'enfant, et quelquefois ça dure un peu plus longtemps que l'enfance, qui aime la confiture et qui va dans l'armoire chercher le pot de confiture quand la maman a le dos tourné. Vous voyez bien le concupiscible. On est attiré vers le bien sensible. Une attraction très forte vers le bien sensible. Et ce bien sensible éveille en nous la passion. Et les passions sont toujours très liées avec l'imaginaire, toujours. Alors, il y a toute une série de passions du concupiscible. Elles sont six. L'amour, le désir, la joie, la jouissance. Et ce qui est le contraire du bien sensible, le mal sensible, la haine, la fuite, la tristesse. Alors, on dira la concupiscence, c'est lorsque le concupiscible, lorsque les passions sont trop fortes et l'emportent par rapport à la prudence, à la raison. Là, on parle de concupiscence. Et le concupiscible n'a rien de négatif. Aimer la confiture passionnément dans son enfance, dans sa vieillesse, ce que les vieillards et les enfants se ressemblent là-dessus. N'est-ce pas? Alors, aimer la confiture n'a rien de mal. Le mal, c'est quand on l'aime de trop. Vous voyez? Parce que aimer, si on aime une bonne confiture, la confiture des bonnes mamans, tu vois. Alors, ça, c'est très bien. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est quand on l'aime de trop. Alors ça devient la concupiscence. Et c'est le dépassement, quelque chose qui va trop loin. Parce que la passion en elle-même n'est pas mauvaise. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui n'a plus aucune passion. On peut lui marcher sur les pieds, ça lui est tout égal, faire n'importe quoi. Lui donner des coups de poing, il ne réagit pas. n'y a plus aucune passion. Les stoïciens considéraient que la passion était mauvaise. C'est pour ça que saint Thomas, je crois, est le premier théologien qui a voulu bien préciser, et c'est la partie de la somme théologique qui a été le plus raturée, d'après les spécialistes qui ont regardé les manuscrits de Thomas d'Aquin. Quelquefois 5 à 6 fois. Je les ai vus, puisque au Solchoir, chez les Dominicains, la cellule était à côté d'un de ceux qui travaillait beaucoup les manuscrits de saint Thomas. Quand il y avait de très beaux manuscrits, il tapait dans le mur pour dire « Venez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant ». Alors, il y a le concupiscible et l'irascible. L'irascible, c'est ce qui regarde le bien difficile. Il y a des gens qui aiment les biens difficiles. Et dès qu'ils sont là, tout devient très difficile. Il y a des gens qui apaisent et des gens qui font comme ça. C'est très curieux. Ils aiment les climats de tempête. Ils sont à l'aise que là. Alors, l'irascible, la passion de l'irascible, c'est l'audace à l'égard d'un bien difficile qu'on veut conquérir. L'audace. L'espérance, la colère. Et le mal qui est immanent, le gros chien qui risque de me mordre et qui est là tout près, met en moi une crainte, met en moi le désespoir, je n'arriverai pas à être victorieux. Et la colère. Il y a 5 passions d'irascible et 6 passions du concupiscible. Le concupiscible est premier et l'irascible est au service du concupiscible dans un être bien fait. Et c'est là où le point de vue psychologique doit jouer un rôle très important. Parce que il y a des interactions constantes entre le concupiscible et l'irascible. On voit ça chez les animaux à l'état pur. Et comme il reste toujours en nous quelque chose de l'animal, à l'état moins pur, on peut le voir aussi. Quand un chien est en train de mordre un ours, on peut s'approcher de lui, mais surtout pas retirer l'os de sa gueule. Parce qu'à ce moment-là, il attaque. Il devient très méchant. Mais quand il a l'os dans la gueule, tranquille. Tandis qu'un chien qui est affamé, qui n'a rien, là, quand il voit de bons beefsteaks, il court dessus. Donc, irascible et concupiscible, et la concupiscence exprime aussi bien du côté de l'irascible quelqu'un qui sera trop colérique. Il y a une concupiscence de la colère. Et il y a une concupiscence à l'égard du bien sensible. Vous voyez, la concupiscence est toujours dite avec quelque chose de négatif, de mauvais. Tandis que les passions ne sont pas mauvaises. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. Je me souviens d'avoir exposé les 11 passions de saint Thomas à des psychanalystes freudiens. Ils étaient tout étonnés qu'au Moyen Âge, un théologien puisse exposer les passions. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, mais c'est pour savoir que dans le Christ, toutes ces passions existaient. Elles étaient parfaitement dominées. Et c'est pour ça que les théologiens disent que dans le Christ, il y a des pro-passions. C'est-à-dire que ce n'est pas des passions qui dépassent la mesure, mais c'est des passions qui sont toutes ordonnées vers quelque chose de spirituel. Et je crois que saint Thomas est le premier théologien qui a exposé les passions de cette manière-là. C'était très intéressant de voir ça. Pouvez-vous préciser le lien entre les trois concupiscences dont parle saint Jean, des yeux, de la vue et de la vie, et de le dépassement dernier, et le péché, la justice, le discernement? Quelqu'un très astucieusement m'a glissé un petit mot tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas voir les trois degrés de vie dans les trois concupiscences? Concupiscence de la chair, le niveau imaginatif et le niveau intellectuel. C'est ordinairement ce qu'on prend comme les trois concupiscences. La concupiscence de la chair, c'est le point de vue de la nourriture et le point de vue sexuel. La concupiscence de la vanité, de la grosse vanité, c'est l'imagination. Et l'orgueil, c'est l'intelligence. Alors, c'est sûr que le péché, tel qu'il est montré dans le point de vue que l'Esprit Saint fait découvrir ce qu'est le péché. Je vous lis ce que le Saint-Père dit là-dessus. C'est intéressant. Le péché dans ce texte signifie l'incrédulité que Jésus rencontre parmi les siens, à commencer par ses concitoyens de Nazareth. Il signifie le refus de sa mission qui amènera les hommes à le condamner à mort. Lorsqu'ensuite il parle de la justice, Jésus semble envisager la justice définitive que lui rendra le Père en l'entourant de la gloire de la résurrection et de l'ascension au ciel. Je m'en vais vers le Père. À son tour, dans le contexte du péché et de la justice, ainsi entendu, le jugement signifie que l'Esprit de vérité montrera la condamnation de Jésus, montrera dans la condamnation de Jésus à la mort en croix, le péché du monde. Toutefois, le Christ n'est pas venu dans le monde uniquement pour le juger, le condamner. Il est venu pour le sauver. La mise en lumière du péché, de la justice, a pour but le salut du monde, le salut des hommes. C'est bien cette vérité qui semble soulignée par l'affirmation que le jugement concerne seulement le prince de ce monde, à savoir Satan, celui qui, depuis le commencement, exploite l'œuvre de la création contre le salut, contre l'alliance et l'union de l'homme avec Dieu. Il est déjà jugé depuis le commencement. Si le paraclet doit confondre le monde en fait jugement, c'est pour continuer en lui l'œuvre salvatrice du Christ. Nous voulons ici concentrer principalement notre attention sur cette mission de manifester le péché au monde, de manifester le péché du monde, pardon, qui est celle de l'Esprit Saint, tout en respectant les paroles de Jésus dans l'ensemble du contexte. L'Esprit Saint qui reçoit du Fils l'œuvre de la rédemption du monde assume par là même la tâche de manifester le péché pour sauver. Cela se fait en référence permanente à la justice. c'est-à-dire au salut définitif en Dieu, à l'accomplissement de l'économie qui a pour centre le Christ crucifié et glorifié. Et cette économie salvatrice de Dieu soustrait l'homme, en un sens, au jugement, c'est-à-dire à la damnation qui a frappé le péché de Satan, le prince de ce monde, celui qui, à cause de son péché, est devenu régisseur de ce monde des ténèbres. Et voici qu'en vertu de cette référence au jugement, s'ouvrent de vastes horizons pour la compréhension du péché et aussi de la justice, montrant le péché sur l'arrière-plan de la croix du Christ dans l'économie du salut. L'Esprit Saint fait comprendre que sa mission est de mettre en évidence même le péché qui a déjà été jugé définitivement. Voyez, je relis, je vous ai dit, c'est un passage difficile, hein, parce que l'explication que donne le Saint-Père est très belle, c'est sûr. Je crois qu'on peut creuser plus. C'est normal, du reste, hein. C'est normal. Une encyclique, c'est un peu comme le catéchisme, c'est donné pour tous. Le théologien doit essayer toujours d'aller plus loin dans le mystère de la parole de Dieu. Et d'aller le plus loin qu'il peut. Il ne s'arrête jamais. C'est l'avantage de la théologie. C'est qu'on n'est jamais au terme. Alors, je reprends ce texte, je vous le relis, puis nous essayons rapidement de comprendre toute la force de ce texte. Donc, Jean 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où t'en vas-tu ? Jésus exprime une certaine tristesse, hein, là. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité, mieux vaut pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché et de justice et de jugement. Donc, le monde confond le péché et ce qui est bon. Ça, c'est bien évident. Et ceci est encore plus vrai de notre temps que du temps de Jésus. Je crois que c'est la grande astuce du démon, c'est de confondre le bien et le mal. De péché, parce que il ne croit pas en moi. La foi dans le Sauveur, en Jésus Sauveur, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui permet le vrai discernement entre le bien et le mal. C'est le mystère de la croix du Christ. Et l'Esprit Saint nous révèle cette sagesse de la croix. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevrez plus. Alors, il s'en va vers le Père pour nous. Il s'en va vers le Père victorieux de la victoire intérieure de la croix qui nous sauve. Et c'est dans ce sens-là qu'il est bon pour nous qu'il parte, parce qu'il réalise le mystère de la croix. Donc c'est bien la justice divine de jugement, donc de discernement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. Il est jeté bas à la croix. Vous voyez, je crois que les trois regardent le mystère de la croix. Et ceci, parce que ça nous explique, il est bon pour vous que je m'en aille. L'Esprit Saint est lié au mystère de la croix. Il nous est donné à partir de la croix. Jésus, par la croix, dans son humanité sainte, peut tout demander au Père, puisque il obéit au Père dans un acte d'obéissance ultime. Il offre sa vie. Il est victime d'amour. Il peut tout demander au Père. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que Jésus peut nous donner ? C'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que je crois qu'il y a trois Pentecôtes, trois moments où l'Esprit Saint nous est donné. À la croix, Marie. Il est donné à Marie. Le soir de Pâques, il est donné aux apôtres. Et à la Pentecôte, il est donné à tout le peuple de Dieu. Il y a une Pentecôte charismatique. Il y a une Pentecôte pour la mission des apôtres. Il y a une Pentecôte réservée à Marie. Pour pouvoir dire ça, il faut justement comprendre comment le mystère du don de l'Esprit Saint est lié à la croix du Christ. Il est bon pour vous que je m'en aille. Même pour Marie. Il est bon, et j'allais dire, en premier lieu pour Marie. Or Jésus nous quitte à la croix. C'est la mort de Jésus qui est la séparation. Et celle qui peut recevoir immédiatement ce don de Jésus, qui est le don de l'Esprit, c'est Marie. Alors comprenez, dans la perspective où Marie reçoit ce don de l'Esprit, à travers son mystère de compassion, à travers son mystère de maternité, à l'égard de Jean. Alors, à l'égard de Marie, j'allais dire, c'est une terrible lumière qui est donnée à Marie. De comprendre le mystère de la croix, le mystère du péché, à travers l'agneau immolé. Son fils bien-aimé. Pour le rachat du péché, Dieu veut, le Père, que son fils bien-aimé soit l'agneau immolé. Pour nous montrer l'horreur de la croix, l'horreur du péché, je veux dire. L'horreur du péché qui brise l'amour, qui supprime l'amour et qui met la haine dans le cœur du pécheur. Et le péché sépare du Christ sauveur. On ne croit plus dans le Christ sauveur. Voilà le péché le plus terrible. Et c'est pour ça que le Saint-Père peut dire, il pouvait dire aux évêques français, quand il est venu à Notre-Dame, la première fois, la tentation la plus terrible, la méta-tentation, c'est que il n'y a plus de place pour le mystère du Sauveur. Les hommes croient qu'ils n'ont plus besoin du Sauveur. C'est le rejet absolu du mystère du Christ qui vient pour nous sauver. Marie, qui a accueilli Jésus à l'Annonciation, à Noël, à la croix, c'est elle qui a accueilli de la manière la plus profonde Jésus. Elle est celle qui, par le fait même, comprend de la manière la plus profonde parmi toutes les créatures l'horreur du péché. Tout péché grave est un refus du Sauveur. C'est un péché d'orgueil. Et c'est le péché d'orgueil qui supprime la foi. On ne peut, je crois, refuser la foi que par orgueil. L'orgueil seul renvoie le mystère de la foi. Et on comprend très bien cela, puisque la foi est reçue dans l'intelligence et met l'intelligence au service de l'amour. Et on refuse de mettre l'intelligence au service de l'amour. C'est ça le grand péché contre l'amour. Marie à la croix comprend la justice. De justice, parce que je m'en vais vers le Père. Jésus a satisfait entièrement au péché. Il s'en va vers le Père. C'est lui qui a porté la réponse, qui a porté toutes les conséquences du péché. C'est lui qui se présente au Père comme le seul responsable de toute l'humanité. Prendre la justice divine, il faut regarder Jésus qui satisfait et qui va jusqu'au bout de la satisfaction. Enfin, le point de vue du discernement, du jugement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. La croix, non seulement enlève les conséquences du péché, mais elle enlève la racine du péché. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous est donnée, qui nous manifeste ça. Alors, est-ce que nous sommes en présence de trois aspects? La source du péché. La source du péché, c'est le démon. Il est jeté bas. C'est dit dans l'Évangile. Jésus nous libère de Satan. Le péché lui-même, qui est l'orgueil, et la justice, le péché nous met dans l'injustice. C'est la conséquence de l'orgueil. Donc, la justice maintient l'ordre. L'ordre du Père à l'égard de ses enfants. Le péché supprime la justice. C'est l'effet propre du péché. Alors est-ce que nous ne sommes pas en face des trois aspects du péché? L'orgueil contre la justice et la source du péché, démon. Et les concupiscences, les trois concupiscences, l'orgueil, la vanité et le point de vue du désir charnel, montrent là encore d'une autre manière le péché lui-même. C'est l'orgueil, le point de vue de l'exaltation du moi. Et l'homme qui se détruit lui-même, il s'exalte et se détruit. Alors, la concupiscence de la chair. Vous voyez les trois concupiscences. L'orgueil, l'exaltation de l'intelligence, l'exaltation du bois dans la vanité, la grosse vanité. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. C'est ça la vanité. Alors, il y a les quatre détériorations de moi dans la concupiscence. Mais c'est pour ça que c'est très dense ce passage. Ça nous montre l'œuvre de l'Esprit Saint. Et l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous est donnée à la croix en surabondance pour nous montrer comment l'Esprit Saint va nous donner un sens très aigu du péché qui supprime la foi, qui supprime le sauveur, péché d'orgueil. Un sens très aigu. Le péché nous aveugle et nous empêche de voir la différence entre le bien et le mal. Et donc, par le mystère de la croix et par le mystère de l'Esprit Saint, nous redécouvrons un discernement entre le bien et le mal. Ensuite, question. Qu'est-ce que péché contre l'Esprit Saint? C'est le péché contre l'amour et la miséricorde. C'est celui qui refuse toute miséricorde de la part de Dieu. C'est le péché de Satan. C'est le péché d'orgueil. L'orgueil refuse de reconnaître qu'on est pécheur. L'orgueil refuse de demander la miséricorde. Donc, celui qui ne demande pas miséricorde ne peut pas être pardonné. C'est pour ça que le péché contre l'Esprit Saint ne peut pas être pardonné. C'est le péché de Satan. Satan refuse de considérer qu'il est pécheur. Voyez, c'est la différence entre la sincérité et la vérité. Satan est sincère dans son orgueil. La sincérité de l'orgueilleux, c'est pas drôle du tout. Quand vous avez été en face d'un orgueilleux sincère, vous ne pouvez rien dire. Il est sincère. Et il s'enferme dans sa sincérité. Je sais très bien que certains aujourd'hui voudraient que le démon puisse être pardonné. Je me rappelle toujours cette petite anecdote passée à Fribourg. Premier jour où j'étais à Fribourg, là on s'en reste. Le père de Ménas me conduit, le père de Ménas dominicain. On avait fait notre noviciat ensemble. Et comme il s'ennuyait prodigieusement à Fribourg, il m'a fait venir à Fribourg. Oui, ça n'est pas caché. Il m'a dit, je veux venir à Fribourg parce que je suis seul ici. Personne ne me comprend. Père de Ménas était un juif d'Alexandrie et les grosses finances d'Alexandrie. Il a déroulé sa bosse partout. Converti à 30 ans, converti à 25 ans, je crois. Et entre novicia à 30 ans. Il y avait 10 ans de différence entre nous deux. Alors, le père de Menas me dit, venez vite à la conférence ce soir. On arrive un tout petit peu en retard, donc on est tout à fait en haut d'une des salles de conférence. Et la conférence était donnée par Ours Balthazar. C'est la première fois que je le voyais. Ours Balthazar, c'était un grand théologien de Bâle. À ce moment-là, il était encore jésuite. Il a quitté la compagnie au moment des grands vœux, qu'il n'a pas fait. Il a quitté la compagnie pour former l'Institut Saint-Jean. La dernière lettre que j'ai reçue de lui, il m'a dit, oui, il y a Congrégation Saint-Jean, mais il y a l'Institut Saint-Jean, il faudra un petit peu voir ensemble comment s'entendre. Et alors, il avait fait une conférence sur le fait, les apôtres se disputent quand le Christ est absent. Les théologiens se disputent quand le Christ est absent. Conférence très brillante. Puis au milieu de la conférence, tout d'un coup, arrive un des dadas de l'époque et de Ours Balthazar. La miséricorde de Dieu est infinie. Alors, est-ce qu'au fond, le péché de Satan ne sera-t-il pas pardonné ? À la fin des temps. Au premier rang se trouvait l'abbé Journet. Et l'abbé Journet et Ours Balthazar étaient de positions théologiques assez différentes, surtout à ce moment-là. À la fin de la conférence, le père de Menas dit, venez vite, il faut que je vous présente au père Journet et puis à Ours Balthazar, puisqu'on se là tous les deux. Alors on descend à toute vitesse, puis on arrive à ce moment historique où j'entends Ours Balthazar dire à Journet, à l'abbé Journet, il n'était pas encore cardinal, ni l'un ni l'autre. Et Ours Balthazar se penche vers le ferme de l'abbé Journet, qui était un peu sourd, alors il crie fort, « Vous me mettez en enfer !» Alors Journet répond, « Oh, je vous aime encore !» Donc la dispute théologique était finie par l'Esprit Saint qui les unissait dans l'amour. C'est très beau. Et pour les grands théologiens, comme l'abbé Journet, Ours Balthazar était un théologien très particulier, très original. C'est lui qui a traduit en allemand tout Claudel. Il était très poète. Et sa théologie était très orientée vers le beau. Vers la gloire. Pour ces théologiens, il fallait que tout se termine dans un grand feu d'artifice. Et donc que la miséricorde de Dieu pardonne tout. Mais il oubliait qu'il y a une faute contre l'Esprit Saint. Irrémissible. Est-ce que la faute contre l'Esprit Saint, c'est pas la faute de Satan ? C'est la faute d'orgueil. qui refuse tout jugement autre que le sien. Et qui veut être toujours premier dans son jugement. Et donc, jamais Satan reconnaîtra qu'il s'est trompé. Parce que ce serait se nier lui-même. L'intelligence angélique est une intelligence intuitive, qui ne raisonne pas. Et donc, qui ne peut pas comprendre qu'elle peut se tromper. Et je crois que Satan ne peut pas demander pardon. C'est la très grande différence avec l'homme. C'est que Satan a péché seul. L'homme ne pêche jamais seul. Il pêche toujours séduit par un frère aîné. Satan. Et donc, il est beaucoup moins coupable. Ça vient dans une famille nombreuse. Les frères aînés se conduisent mal. Le frère aîné commence à mal se conduire. Et commence à séduire les petits benjamins, les petits derniers. Les parents s'en aperçoivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils punissent durement le frère aîné. Et les petits benjamins qui se sont laissés séduire, on leur donne une tendresse encore beaucoup plus grande. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes les petits benjamins, nous. Les petits derniers dans la famille de Dieu. Les aînés sont les anges. Et Adam s'est laissé séduire par l'aîné et par son épouse, Ève. Et nous aussi, on se laisse séduire par le démon, qui est toujours beaucoup plus intelligent que nous. Alors Dieu peut nous pardonner parce que notre faute est partagée. Tandis que le démon qui a péché dans sa foi, refusant d'accepter pleinement ce que Dieu lui demandait, et aimant mieux sa propre intuition à l'égard du gouvernement divin, il n'accepte pas de reconnaître qu'il est pécheur. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Parce que l'orgueil et contre l'amour. Dernière question, pouvez-vous revenir sur la procession? Avant, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah non, c'est encore la procession, donc c'est très bien. Alors, une autre question. Les passages de Saint Jean, chapitre 4, versets 13-14. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante. Chapitre 7, 37-38. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Ne nous parle-t-il pas, ces différents passages, aussi de l'Esprit Saint? Nous éclaire-t-il sur le mystère de la charité fraternelle et de son lien avec la vie trinitaire? Oui, je crois que l'eau vive, c'est le symbolisme de la charité fraternelle. Et que la charité fraternelle est liée directement à l'Esprit Saint. Et à Marie. Si on a le temps, on y reviendra. Je ne vais pas ici développer beaucoup. Mais il est net que l'eau vive, c'est le don. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Bien que l'eau vive puisse exprimer symboliquement l'Esprit Saint. Nous l'avons vu l'autre jour. L'eau vive, c'est l'eau qui est liée à sa source. Et la source de tout amour, c'est l'Esprit Saint. Donc l'eau vive, c'est bien la charité fraternelle. Ça symbolise la charité fraternelle. Et nous devenons source de la charité fraternelle, source d'eau vive. Dans l'amour à l'égard du Père, à l'égard de Dieu, qui est lié à l'adoration, qui est lié, qui se prolonge dans la contemplation, on est beaucoup plus réceptif, passif. Dans l'amour de charité fraternelle, on doit être actif et source. Et c'est l'Esprit Saint qui fait en nous cette passivité, et c'est l'Esprit Saint qui nous fait source d'amour. Fait les deux. Parce que passivité, réceptivité et source, tous les deux proviennent de l'amour, mais ne sont pas l'amour. L'amour, ce n'est pas la réceptivité, mais l'amour nous rend réceptifs. Être source, ce n'est pas l'amour, mais l'amour fait de nous des sources d'eau jaillissante. Donc, c'est les propriétés de l'amour. Et les propriétés de l'amour, qui toutes les deux peuvent être unies dans l'amour. Psychologiquement, l'attitude de réceptivité est totalement différente de l'attitude de celui qui est source, qui prend des initiatives. C'est même contradictoire. Tandis qu'au plan divin, ce n'est pas contradictoire. L'Esprit Saint met en nous une passivité radicale. Et l'Esprit Saint met en nous une source d'eau jaillissante pour nos frères. Alors, je reviens sur le point de vue de la procession. Par là, on continue ce que je disais tout à l'heure. Alors là, on entre en théologie. Alors, le théologien essaie de comprendre un mystère qui lui échappe complètement. Alors quand je dis essayer de comprendre, essayer de saisir que ce mystère n'est pas contradictoire, essayer de saisir les petites miettes de ce mystère. Comprendre la grandeur du mystère de l'Esprit Saint pour pénétrer dans ce mystère, il se sert de l'expression qui est donnée dans l'Écriture, je procède du Père. Je suis sorti du Père. C'est le Verbe de Dieu. Et l'Esprit Saint, on dit aussi qu'il procède du Père. Tous les deux procèdent du Père. Et le théologien essaiera de comprendre que veut dire ce mot procession. Saint Thomas dira émanation. Procéder, émaner. Alors, on dira, c'est l'opération vitale spirituelle qui implique une procession immanente. Avec un fruit qui demeure immanent. Et on distinguera la procession immanente de la procession qui a un fruit en dehors, la création. La création est une procession, une émanation qui a un fruit en dehors, la créature. Tandis que cette procession immanente, spirituelle, elle a un fruit interne, immanent. Ceci, le philosophe peut le comprendre. Et c'est là où le théologien se sert de cette distinction que le philosophe fait pour essayer d'entrer dans ce mystère de la très sainte Trinité, dans ce mystère de fécondité divine. Comment comprendre cette fécondité qui est révélée? Comprenons bien, elle est révélée, puisqu'il y a le Fils, puisqu'il y a l'Esprit Saint, qui tous les deux procèdent du Père. Comment puis-je saisir dans l'obscurité de la foi ce mystère de fécondité? Alors je me sers de comparaison, ce que fait l'Écriture du reste. Cette fécondité spirituelle, cette fécondité de Dieu qui est esprit, est une fécondité qui peut être purement d'intérieur. J'en ai un petit exemple. Quand je pense intellectuellement, je forme au-dedans de moi ce qu'on appelle un concept. Et les théologiens du Moyen-Âge diront un verbe intérieur. Et quand je parle, j'exprime à l'extérieur ce verbe intérieur. L'opération spirituelle a donc deux moments tout à fait différents. Un moment intérieur et un moment où le fruit est extérieur. Quand je parle, il y a un fruit extérieur pour celui qui m'entend. Tandis qu'au contraire, quand je pense, normalement, je pense dans le silence. Sauf quand je lutte contre le sommeil, alors je pense tout haut, pour me donner un peu plus de cœur. Autrement, je pense au-dedans de moi. Donc, j'ai une comparaison qui va m'aider, on dira une analogie, qui va m'aider à m'élever jusqu'à ce mystère de la fécondité qui est en Dieu. En Dieu, puisque tout est simple, le mystère de la fécondité ne peut être que dans une immanence parfaite. Il n'y a aucune impossibilité, métaphysiquement parlant, de penser à une fécondité purement immanente. Parce que cette fécondité est purement spirituelle. Or, l'esprit en moi a deux dimensions. Une dimension du côté de l'intelligence, une dimension du côté de la volonté. Je pense et j'aime. Je pense et je veux aimer. Penser et vouloir aimer sont deux opérations spirituelles, purement immanentes. Je prends la décision de vouloir aimer. Parce que déjà, je suis ému au plus intime de moi-même. Et j'aime cette personne. Au plus intime de moi-même, je pense à quelqu'un et je forme au-dedans de moi ce concept. Vous voyez, c'est saint Augustin qui est le premier à développer toute cette théologie par rapport à la très sainte Trinité à partir des deux processions. Une selon l'intelligence, l'autre selon la volonté. Parce que l'esprit, mon esprit, a ces deux dimensions. Je le constate. Ce n'est pas du tout vouloir prouver que nécessairement en Dieu, il y a trois personnes. La source, le fruit de la contemplation intellectuelle de cette source qui est le Père et qui serait le Verbe. Et puis, un fruit autre qui viendrait de l'amour et qui serait l'Esprit Saint. Comprenez bien, la foi me dit il y a trois personnes en Dieu. Dans la simplicité absolue de Dieu. Le théologien va essayer de découvrir, à partir du langage de l'Écriture, les quelques analogies qu'il peut avoir, c'est-à-dire les quelques comparaisons qu'il peut avoir, et qui le dirigent vers ce mystère. La procession qui est une émanation. Procession selon l'intelligence, procession selon la volonté. La procession selon l'intelligence me conduit au mystère du Verbe, la seconde personne de la très sainte Trinité. La procession selon la volonté me conduit à un fruit intérieur. Je porte au-dedans de moi la personne que j'aime lorsque je l'aime. Et tout le monde est d'accord avec ça. Quand vous aimez quelqu'un au plus intime de vous-même, vous le portez. Tu demeures en moi et je demeure en toi. Évidemment, pas réellement. Ce serait pas très commode. Pour une opération chirurgicale, n'est-ce pas ? Mais je le porte intentionnellement. Parce que j'aime. Aimer quelqu'un, c'est se porter vers cette personne et, par l'amour, je la porte en moi. Et si elle m'aime, je suis porté par elle. C'est propre de l'amour, ça. On demeure en celui qu'on aime et on porte celui qu'on aime. Alors, évidemment, c'est une comparaison très lointaine. Parce que quand je pense à quelqu'un, le fruit de ma pensée, ce n'est pas mon fils. C'est simplement un concept. Quand j'aime quelqu'un, le fruit de l'amour que j'ai pour cette personne n'est pas une autre personne. Non. C'est un amour intentionnel que je porte en moi. Mais c'est quand même une certaine comparaison. Et depuis saint Augustin, tous les théologiens ont repris ces comparaisons. Saint Thomas a fait quelque chose de très grand dans cet ordre-là. Il a dépassé le point de vue psychologique et essaie de comprendre au niveau de la vie spirituelle comment tout cette vie spirituelle implique ce double mouvement. Le mouvement de porter au plus intime de nous-mêmes celui à qui l'on pense. Et l'autre mouvement, qui est un mouvement extatique, d'être porté vers la personne qu'on aime et de former au-dedans de nous-mêmes une image de cette personne. Alors on dira d'une façon tout à fait particulière qu'il y a un mouvement qui ramène tout au plus intime de nous-mêmes. Il y a un mouvement qui me fait sortir de moi l'extase et l'intase. Vous voyez bien. L'extase. C'est l'amour. Tout amour est extatique. Tout amour est extatique. Et toute connaissance intellectuelle, c'est l'intase. Je fais que celui à qui je pense demeure en moi. Je le porte en moi. Tandis que quand on aime, on se quitte. Et on est en celui qu'on aime. Et ça, c'est le double mouvement de l'esprit. L'esprit est à la fois ce qui attire vers soi l'autre, et l'esprit est celui qui est capable de se porter vers l'autre. Le mouvement de l'intelligence, le mouvement d'amour. Et on regardera le fruit de ces deux mouvements, et on dira que l'un, c'est le verbe, et l'autre, c'est l'amour. Donc, une fois qu'on a ces deux aspects, on essaie alors de comprendre l'ordre qui existe entre ces deux.